Vous êtes bien sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0. Nous allons consacrer notre émission à un compositeur français, Édouard Lalot, je lui dirai un de plus, car nous avons consacré bon nombre d'émissions déjà à des compositeurs français, noblesse oblige. Édouard Lalot, compositeur extrêmement original, qui est un petit peu en marge des carrières classiques, des compositeurs, grand prix de ci, de là, de conservatoire, grand prix de Rome, professeur au conservatoire, élève au conservatoire. Il ne vivra pas tout cela, il ne suivra pas cette voie, mais passionné de musique, il aura une longue période de formation au cours de, à l'issue de laquelle il fera ses grandes œuvres principales, en laissant environ 70 œuvres. Et il est un peu comme Fauré, il va suivre sa propre voie, il ne va pas, il admire la musique allemande, mais il ne fait pas de la musique allemande. Il est séduit par Wagner, mais il ne verse pas dans le wagnérisme ou dans l'idolâtrie. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement attachant, d'extrêmement original, que nous allons vous présenter. Et tout de suite, parce que ce fut un grand musicien de musique de chambre, comme interprète, mais aussi comme compositeur, le deuxième mouvement de son premier trio, composé en 1850.
Édouard Lalot est né à Lille le 27 janvier 1823. Il va commencer ses études au Conservatoire de Lille, où il apprendra notamment le violon sous la direction des professeurs Müller et Baumann. Il a probablement appris aussi le violoncelle et il va beaucoup pratiquer dans sa vie le violon et l'alto, notamment en musique de chambre, puisqu'il faisait partie d'un ensemble. C'est donc un musicien un petit peu atypique qui est relativement peu connu, encore qu'il soit joué à l'opéra et encore qu'il a fait plusieurs œuvres fameuses, dont notamment la symphonie espagnole. Cela n'est pas neutre car les ascendances de Lalo né à Lille sont d'origine espagnole. Donc on peut considérer qu'il a voulu parler de ses origines dans cette œuvre, sachant qu'à cette époque, d'autres compositeurs se sont risqués à vouloir illustrer leur musique avec le style espagnol, ainsi notamment Chabrier avec son œuvre fameuse Espagna. Nous allons, pour débuter, écouter un extrait du concerto pour violon, en l'occurrence l'Andantino, le deuxième mouvement, où nous allons voir la parfaite connaissance de cet instrument qu'avait Lalo. Thank you.
Nous sommes en 1839. Lalo monte, comme l'on dit, à Paris. Et il ne rentrera pas au conservatoire. Et il ne sera ni un élève, ni un professeur du conservatoire de Paris. Il poursuit néanmoins ses études musicales contre la volonté de son père. Et il a des professeurs de violon prestigieux, Pierre Bayot, François Habneck. Il se lie d'amitié avec un très grand violoniste, Pablo de Sarasate. Il se perfectionne surtout au niveau de la composition, grâce à l'aide du pianiste Julius Schulhoff et surtout de Joseph Eugène Crèvecœur, qui a été à deuxième Grand Prix d'Europe. C'est dans ce contexte qu'il va commencer à composer ses premières œuvres et à se faire connaître, j'allais dire très discrètement, mais à s'appliquer beaucoup, composer des œuvres d'une grande clarté rythmique, d'une belle invention mélodique. Nous allons écouter l'une de ses grandes œuvres, un extrait de son concerto pour violoncelle.
Thank you.
Il est frappant de voir, comme nous l'avons vu lors de précédentes émissions sur les compositeurs français du 19e, il est donc frappant de voir que tous se fréquentaient, se connaissaient. Et on peut dire que Paris était une capitale musicale mondiale, mais c'est aussi, pour ce qu'il y ait des salons et autres, une petite ville où tous les grands artistes, qu'ils soient des musiciens, des peintres, des poètes, des écrivains, se croisent. Ainsi, Édouard Lalot, s'il avait une vie discrète, a fréquenté Charles Gounod, Berlioz. Il a été très apprécié par Paul Dukas. Paul Dukas qui dira qu'il pense que Édouard Lalot a donné un héritage important et une grande influence sans qu'on en soit conscient dans toute la vie musicale et pour tous les compositeurs français. Il a beaucoup produit son art d'instrumentiste dans le quatuor Armengo, qui au départ était voué à jouer de la musique germanique en France. Il a eu une vie plutôt discrète jusqu'en 1864, où son épouse décédée, étant veuf, il épouse Julie-Marie Victoire Bernier de Maligny, mezzo-soprane, très connue à l'époque, et avec laquelle il va donc vivre. Et à partir de là, il va tenir un salon chez lui, comme cela se pratiquait beaucoup, où donc se réunissaient les artistes, quel que soit leur art, hein, donc que ce soit la musique, que ce soit la poésie, que ce soit les peintres. Il y avait donc une animation culturelle importante, et alors que Édouard Lalot était un homme discret, il a ainsi pu fréquenter tous les artistes et enrichir son art. Vers la fin de sa vie, il va écrire un concerto pour piano. Nous allons écouter le deuxième mouvement. Dans toutes ses œuvres, on voit vraiment la maîtrise de la composition. Édouard Lalot est discret, il n'est pas du tout exubérant, mais sa musique est parfaitement dosée et parfaitement écrite. Écoutons donc l'Andantino du concerto pour piano. Thank you.
Lalo ne va pas composer que des concertos ou de la musique de chambre, il va créer des compositions d'envergure. Le ballet Namouna, dont vous parlera Bruno, commandé par l'Opéra de Paris, et puis qui sera d'ailleurs défendu, assez mal reçu par le public, mais défendu vigoureusement par Debussy. Et puis, dans les compositions d'envergure, on va trouver un opéra qui sera quasiment pas joué et inconnu, et surtout, le Roi X, composé entre 1875 et 1878. C'est une légende bretonne. En fait, le rôle principal de la contralto est composé par Lalo pour sa seconde épouse, qui est Julie de Marigny, qu'il épousera donc en seconde noce, après avoir été veuf, qui est un soprano connu et avec laquelle il s'installera à Paris et tiendra salon régulièrement tous les vendredis. Le Roi X, c'est une légende donc bretonne, folklorique bretonne, et l'acte 1, c'est Margaret, qui est la fille du Roi X, qui est amoureuse de Milio, mais elle est promise à un autre, au prince de Carnac. Milio est un ami d'enfance de Margaret et de sa sœur Rosaine, et sa sœur Rosaine est en fait amoureuse de Milio, et Milio amoureuse de Rosaine. Et donc, lorsque Margaret va refuser de se marier à Carnac, parce qu'elle pense se destiner à Milio, elle va apprendre la liaison de sa sœur avec Milio. Et bien entendu, il y aura un défi. Et Milio tuera le prince de Carnac. Margaret poursuit quelque part une vindicte. Elle en veut aux deux amants, à sa sœur et à Milio. Et elle propose entre-temps, avant que Carnac ne soit tué, d'ouvrir les portes des écluses qui protègent la ville. Ce qui sera fait, l'eau va s'engouffrer et Milio donc tuera Carnac. Margaret se jettera à la mer en avouant son forfait. Et à la fin de l'opéra et de l'acte 3, Saint Corentin, protecteur de la ville, apparaît et l'océan s'apaise et le peuple prie pour l'âme de Margaret. Très bel opéra avec de très beaux airs. Nous allons écouter tout d'abord un extrait donc de l'acte 2, « De tous côtés, j'aperçois la plaine lorsque je t'ai vu ».
J'aperçois dans la plaine les soldats par Carnac sous nos murs amenés. Oh,
Nous écoutons maintenant un second extrait de l'opéra Le Roi 10. Ces extraits me font penser, en les écoutant d'ailleurs, beaucoup à Massenet, qui est son contemporain évidemment, où il y a cette fusion vraiment magnifique de la mélodie et du rythme, de l'enchaînement, d'une musique qui n'est pas épaisse, comme le sont parfois les musiques allemandes. Elles sont très belles, mais c'est un style complètement différent. Nous écoutons donc cette fois l'acte 3, la scène 1, « Puisqu'on ne peut fléchir, vainement, ma bien-aimée ».
Qu'on ne peut fléchir ses jalouses gardiennes. Ah, laissez-moi compter mes peines et mon émoi.
Arriba.
En 1882, Lalo voit son ballet Namouna exécuté à l'Opéra de Paris. Ce fut un échec, il fut l'objet d'une cabale, comme cela se produisait souvent à l'époque pour les opéras et les ballets. Il avait peiné pour écrire cette œuvre qu'il avait épuisée et à laquelle il s'est beaucoup consacré. Gounod, d'ailleurs, signalons-le, l'a aidé alors qu'il était souffrant. Il a beaucoup mis de lui dans cette œuvre et considérait qu'il fallait que le ballet ait une musique qui, certes, mette en évidence et mette en valeur et anime le ballet, mais aussi soit une vraie musique. Et si cette œuvre fut décriée, ce ne fut pas le cas de tout le monde. En l'occurrence, Debussy a toujours considéré que cette œuvre était majeure, était un ballet particulièrement beau, et il a même dit « Parmi trop de stupides ballets, il y a eu une manière de chef-d'œuvre, le Namouna d'Édouard Lalo. On ne sait quelle sourde férocité l'a enterré si profondément que personne n'en parle plus. C'est triste pour la musique. » Voilà un compliment majeur de la part d'un très grand musicien, même s'il fut aussi, signalons-le, un habile polémiste en matière musicale, ainsi que nous l'avons exprimé lors de l'émission qui lui était consacrée. Il n'empêche que l'œuvre de Lalo est absolument magnifique. Elle se situe, elle se prête particulièrement bien au ballet, elle se situe à Corfou au XVIIe siècle, où deux marchands d'esclaves, Adriani et Ottavio, se font querelle. L'un perd son bateau au profit de l'autre, l'autre refuse en compensation que son esclave Namouna, car Namouna est donc une belle esclave, soit mise en jeu, à tel point que celui qui gagne offre à Namouna le bateau. Tout cela donnera lieu à des ballets vertigineux et très exotiques, et la morale sera parfaite à la fin, puisque Namouna, sur une île, mettra en vente le bateau pour racheter tous les esclaves qui sont sur l'île. Écoutons cette œuvre à laquelle Lalo tenait beaucoup. Thank you.
Abordons maintenant l'une des très grandes œuvres, très jouées partout dans les salles de concert, très grandes œuvres composées par Édouard Lalot, c'est la Symphonie espagnole. Édouard Lalot avait un attrait particulier pour en fait les musiques folkloriques. Et il s'est intéressé assez à la musique folklorique espagnole, vous verrez, c'est très caractérisé. Il a aussi composé une rhapsodie norvégienne. Il a aussi composé un concerto russe. Donc il aimait ces musiques folkloriques et cela l'inspirait beaucoup. Cette symphonie espagnole est en fait un grand concerto pour violon, parce que elle comporte cinq mouvements où l'orchestre et le violon, bien entendu, échangent et jouent. Voilà, donc cela l'a rendu extrêmement célèbre, il a été décoré de la Légion d'honneur, il est devenu très célèbre à la fin de sa vie, en ayant eu une vie pourtant particulièrement discrète et appliquée. C'est un petit peu le frère, entre guillemets, de Fauré. Ce sont deux compositeurs qui ont suivi leur voie originale et qui ne se sont pas laissés trop lourdement inspirés par d'autres musiques ou d'autres styles de musique. C'était la musique qu'ils avaient dans l'esprit, dans la tête, des formes brèves, des innovations mélodiques et rythmiques. Et voilà, cette notoriété à laquelle arrive Lalot à la fin de sa vie. Il meurt le 22 juin 1892 au terme de 70 œuvres composées, dont celle que nous avons écoutée ensemble nous le laisse en mémoire dans l'histoire de la musique française en particulier et de la musique tout court en général.
Thank you.
Nous avons écouté lors de cette émission les œuvres de l'Allo suivante, la romance du premier trio par le trio Salomon, l'Andantino de son concerto pour violon par Woo Young Kim et l'orchestre de Liège, puis le premier mouvement du concerto pour violoncelle par Gavrilidis Petrine et Ludovic Morlot, qui dirige le New England Conservatory Orchestra, puis le deuxième mouvement de son concerto pour piano avec au piano Philippe Bianconi, ensuite deux extraits du Roi 10, un extrait de l'acte 2, J'aperçois dans la plaine, et un extrait de l'acte 3, Vainement ma bien-aimée, puis Namuna, la parade de foire, jouée par le Royal Philharmonie Orchestra, et enfin Isaac Perlman, qui tenait le violon dans la symphonie concertante espagnole, avec à la baguette Barenboim. Notre prochaine émission sera consacrée à deux très grandes chanteuses que Paul et moi affectionnons particulièrement, Gundula Janowitz et Federica von Stadt. D'ici là, passez un bon mois à venir et écoutez Radio B. À très bientôt.